Chapitre 15. Si les ennemis de Jane étaient au courant que Gavin et Jessica abritaient Travis chez eux, ils ne faisaient aucun doute que leur ligne fixe et leur portable étaient espionnés. Ils ne pourraient plus prononcer une parole sans qu'elle soit immédiatement écoutée. De retour dans la cuisine, ils trouvèrent Travis occupé à balayer le sol à l'aide d'un attrape-poussière. Duke et Queenie trouvaient l'opération très amusante, et le petit garçon, Hilar, s'évertua à les empêcher de mordre la lingette avant de remiser son balai dans le placard. En se retournant, il vit Gavin dessiner un V avec deux doigts qu'il pointa vers ses propres yeux avant de les diriger vers ceux de l'enfant. Il s'agissait d'un code préétabli synonyme de problème majeur. Travis serait dit.
Alors, bonhomme, lui proposa Jessie. Tu veux jouer au mistigris ?
Oh oui, j'adore les jeux d'autrefois.
Gavin tendit l'index et traça un cercle en l'air avant de tirer le lobe de son oreille droite. Il nous écoute partout dans la maison.
Je vais chercher à boire, poursuivit Jessie.
Rapporte-moi une bière, fit Gavin.
À moi aussi,
renchérit Travis.
Même pas en rêve,
sourit Jessie en manipulant l'iPod posé sur le plan de travail à côté d'une paire de haut-parleurs Bose. Une Heineken pour le grand et un soda pour le petit.
Il faut que j'aille aux toilettes,
déclara Travis.
Moi aussi, mais pas avant d'avoir mis un peu de musique.
Quand je pense que je suis née après la vague doo-wop,
se lamenta Gavin.
Tu ne peux pas nous mettre du Hank Ballard, les Platters, les Del Vikings.
Une balade s'échappa des haut-parleurs et Gavin quitta la cuisine en compagnie de Travis. Le seul ordinateur de la maison connecté à Internet se trouvait dans le bureau de Gavin. Il était équipé d'une caméra, mais l'ancien militaire avait recouvert le minuscule objectif d'un morceau de scotch opaque. À en croire la rumeur, les ordinateurs les plus récents, dont faisait partie le sien, disposaient d'une caméra cachée derrière l'écran. Un œil orwellien digne de 1984. L'appareil était éteint, Gavin n'ayant pas eu l'occasion de s'en servir ce jour-là. Mais il était branché à une prise murale, si bien qu'il émettait un signal en continu. Gavin n'avait aucun moyen de savoir s'il était possible de mettre en route l'ordinateur à distance de façon à activer la caméra, mais il n'avait pas envie de prendre de risques en se rendant dans le bureau. La maison comptait trois téléviseurs, tous anciens. Le petit modèle dans la cuisine était vieux d'une quinzaine d'années. Il avait appartenu à la mère de Jessie. Les télés du salon et de la grande chambre avaient été achetées au moment de leur mariage, 8 ans plus tôt. Aucun des trois appareils ne possédait donc de caméra ou de connexion Internet. Duke et Queenie se ruèrent dans l'escalier devant lui, la queue basse, pressentant la crise qui couvait. Le smartphone de Gavin se trouvait dans la commode de leur chambre. Il allait devoir l'abandonner, tout comme celui de Jessie. Le seul portable qu'il pouvait se permettre d'emporter était l'appareil jetable donné par Jane. Il était hors de question de s'en servir tant qu'il serait à portée de l'avion espion. Mais il serait utile plus tard. Prêt à passer à l'action sans savoir précisément ce que l'on attendait d'eux, Duke et Queenie quittèrent la pièce dans le cliquetis de leurs griffes sur le plancher, sans doute à la recherche de Travis. Au fond du dressing, deux valises préparées à l'avance attendaient, que Gavin posa près du lit. Il récupéra dans le tiroir du bas de sa table de nuit un holster Galco en daim que ses quatre lanières réglables rendaient particulièrement confortable. Il l'enfila et y glissa son Springfield Armory TRP Pro de calibre 45, muni d'un chargeur de 7 balles. Un canon de 12 cm, tout juste 1 kilo une fois chargé, l'arme de service des membres de l'unité de libération d'otages du FBI. Il enfila un blouson de façon à cacher le holster, prit les bagages et redescendit à la cuisine où l'attendait Travis, équipé d'une petite valise. Les chiens, munis de leur laisse, montaient la garde à côté de lui, muscles tendus et queue au repos. Jessie chantait « Little Darling » à l'unisson des Diamonds sur l'iPod. On aurait pu croire qu'elle n'avait pas un souci en tête. Elle avait passé à la ceinture un étui bas, permettant à la crosse de son Colt Pony Pocket Light 380 de ne pas venir taper contre sa hanche.
Elle avait pris dans sa cachette de l'arrière-cuisine une mallette contenant 110 000 dollars. 90 000 saisis par Jane chez divers conjurés au cours des derniers mois, et 20 000 prélevés en plusieurs fois par les Washington sur leurs économies à la banque, afin de ne pas attirer l'attention sur eux, en cas d'urgence. Les dernières harmonies des Diamonds se turent, et Gavin profita de l'intervalle entre deux chansons pour rejoindre la porte donnant sur l'extérieur.
« Tu n'as pas d'enregistrement des Marcells ?»«
Du calme, Roméo !»« Tu crois peut-être que j'ai oublié de mettre Blue Moon, la chanson de notre lune de miel, sur cette compile ?»« Elle est un peu plus loin. »
Les voix de Joe Bennett et des Sparkle Tones emplirent la pièce, et il reconnut Black Slacks. Il ouvrit la porte sans bruit, et sortit avec les deux valises, laissant dans la cuisine Travis, Jesse et les deux chiens, le temps de se rendre au garage, derrière les écuries.